franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre. Et bonjour à tous. La clé du bonheur se trouvera-t-elle dans les gènes ? C'est en tout cas la conclusion d'une étude publiée dans le très scientifique et très sérieux Journal of Happiness Studies. Des chercheurs ont tenté de comprendre pourquoi les habitants du Mexique ou du Nigeria se disaient plus heureux que les habitants de la Chine, de l'Espagne ou de l'Italie. Réponse, grâce à un petit élément génétique qui diffère selon les populations. En l'occurrence, un allèle A qui empêche la dégradation de l'anandamine, une substance naturelle diminuant la douleur et accroissant dans le même temps les plaisirs sensoriels. Les porteurs de cet allèle A se trouvent principalement en Amérique latine et en Afrique de l'Ouest, mais aussi au nord de l'Europe, notamment en Suède, dont les ressortissants se disent souvent très heureux. Et les Français, me direz-vous ? Eh bien, les Français se disent avant tout méfiants, moroses et puis surtout très las.
Oui, c'est en effet les termes qui ressortent de l'enquête sur l'état du pays que publie chaque année le CEVIPOF.
Le Centre de Recherche Politique de Sciences Po, et cette enquête est publiée ce matin dans le Journal du Dimanche. Liste des qualificatifs représentant l'état d'esprit des Français en ce moment en tête. La lassitude donc, suivie par la morosité, juste un point devant la méfiance. Analyse du directeur de l'Institut. Ces résultats sont l'expression d'une vraie fatigue dans le pays. Ils montrent que les gens sont dans l'impossibilité de se projeter dans un avenir meilleur. C'est une forme de résignation, commente pour sa part le sociologue Michel Vievorka, pour qui nous vivons aujourd'hui une période de sale temps qui en outre est assez dangereuse. Les phases de lassitude, dit-il, génèrent des pulsions violentes, mais aussi des appels à l'autorité. La preuve avec ce chiffre, 47% des personnes rencontrées pour cette enquête en arrivent à souhaiter pour la France un homme fort qui ne se préoccuperait ni du Parlement, ni des élus. En somme, un régime autoritaire, ce n'est pas vraiment rassurant. Les Français ne vont donc pas bien. La preuve avec cet autre chiffre, plus de 4 millions de nos concitoyens sont touchés par la dépression. Cette fois, c'est à lire dans Le Parisien qui nous vante les mérites d'un tout nouvel objet, un bracelet connecté, un bracelet antidépression, qui sera testé à partir du mois de février et qui devrait permettre de diagnostiquer plus tôt les états dépressifs. Dessin drôlissime de Rançon, un homme équipé de l'engin, il n'a pas l'air d'aller bien. J'ai essayé le bracelet qui détecte la dépression, mais chaque fois que je regarde les indicateurs, ça me déprime, confie-t-il. Du reste, quand on observe ce qui se passe à travers la planète, il y a matière à déprimer. Reportage dans le JDD sur la famine à Madaya, ville syrienne assiégée depuis maintenant plusieurs mois. Des dizaines de morts, des enfants et des personnes âgées. Et ceux qui survivent boivent des potages avec des feuilles, tandis que d'autres mangent des chats. Et puis à la une du journal, l'attentat à Ouagadougou qui a fait au moins 29 morts. Cet attentat qui vise la France, titre à sa une l'hebdomadaire.
Oui, car parmi les victimes, il y a 3 Français.
3 salariés d'une entreprise du Val-d'Oise dont vous verrez les visages dans Le Parisien. Récit de cette attaque menée par un groupe djihadiste dans l'ensemble de la presse dominicale. Récit du carnage et des scènes de terreur. Terreur au Burkina, comme s'en émeut le Télégramme, qui décrit une capitale burkinabé traumatisée par cette tuerie revendiquée par l'organisation terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique, une organisation qui joue la surenchère avec les terroristes du groupe État islamique, analyse un expert dans les colonnes du Parisien. Un autre, dans le Journal du Dimanche, explique « Leur stratégie est claire, faire qu'il y ait de moins en moins d'occidentaux et d'ONG dans les pays d'Afrique pour qu'ils puissent y implanter leurs associations de bienfaisance, et distiller leur propagande ».
Au Portugal, on parle assez peu de terrorisme et c'est un débat d'une toute autre nature qui fait aujourd'hui polémique. Vif débat sur une loi condamnant le harcèlement sexuel dans la rue.
Loi votée fin décembre qui permet dorénavant d'envoyer en prison jusqu'à 3 mois de prison ferme les hommes qui alpaguent les passantes en leur lançant des grossièretés. Je te ferai bien ceci ou bien ça. Toi, t'as une bouche pour ci ou ça et je vous laisse imaginer le ci, le ceci et le ça. Commentaires infamants que certaines peuvent subir à longueur de journaux, d'où la satisfaction d'une partie de la population. Quand le Parlement portugais a voté la loi en question, mais depuis, les voix sont nombreuses à dire qu'elle ne pourra rien changer au machisme ambiant. De plus, comment imaginer qu'une femme qui marche dans la rue et entend une phrase sexiste et violente puis s'arrêter pour se confronter à l'agresseur avant d'appeler la police et de l'identifier pour les besoins de l'enquête. Des arguments contre, des arguments pour, le débat est à lire dans les pages de Courrier International. Dans l'hebdomadaire, lire aussi cet article du Financial Times qui a mobilisé ses meilleurs spécialistes pour prévoir ce que sera cette année 2016. Des prévisions boules de cristal, notamment à propos de politique internationale. Bachar al-Assad va-t-il rester au pouvoir en Syrie ? Oui, rétorque cynique le quotidien britannique, et ceci même en cas de progression du processus de paix, sachant que pour l'heure on est encore dans un processus de guerre. Angela Merkel sera-t-elle toujours chancelière ? Non, répond cette fois le journal anglo-saxon qui prédit une année terrible pour la moutie des Allemands. Parmi les autres prévisions des experts questionnés par le Financial Times, on notera par ailleurs l'élection d'Hillary Clinton, présidente des États-Unis. Hillary à la Maison-Blanche, élue avec une courte avance sur Ted Cruz, son adversaire républicain, Ted Cruz donc, et pas Donald Trump. On verra si ça se vérifie. Et sinon, qui remportera la Coupe d'Europe de football ? Eh bien, si l'on en croit le connaisseur interrogé, ce sera la Belgique. Là encore, on verra si ça se vérifie.
Oui, le quotidien britannique se garde en revanche de donner la moindre prévision pour la présidentielle en France qui aura lieu, il faut le rappeler, l'an prochain.
Mais pour cela, nous avons la presse hexagonale. Avec ce matin une enquête au Doxa dans le Parisien. Quel serait le meilleur candidat pour faire gagner la droite ? Réponse, Alain Juppé. Et quel serait le meilleur candidat pour faire gagner la gauche ? Réponse, Emmanuel Macron. Oui, vous avez bien entendu, Macron pour faire gagner la gauche. C'est, je crois, la première fois qu'un institut de sondage teste l'hypothèse d'une candidature du ministre de l'économie, lequel, si l'on en croit le journal, serait d'ailleurs excédé par les piques incessantes venues de son propre camp, des petites vexations qui, selon ce proche, seraient orchestrées directement par Manuel Valls, qui, dixit un autre ministre, ne peut plus le voir en peinture et tenterait même de le pousser vers la sortie, à tel point qu'Emmanuel Macron n'exclurait pas de quitter bientôt de lui-même le gouvernement. Et s'il claquait la porte, s'interroge ainsi le quotidien à sa une. Du reste, il en est un qui a déjà commencé à faire ses cartons, c'est Laurent Fabius. Avec sa nomination attendue début février à la tête du Conseil constitutionnel, raconte le JDD, les membres de son cabinet préparent eux aussi activement leur reconversion. Reste à savoir par qui le remplacer. Au Quai d'Orsay, autre donnée de l'enquête que nous avons évoquée à l'instant, le sondage publié dans le Parisien, les trois quarts des sympathisants de gauche souhaiteraient que celle-ci organise des primaires en phase, donc avec l'appel lancé par des intellectuels et des artistes lundi dernier dans Libération. Mais hier soir, dans l'émission On n'est pas couché sur France 2, le Premier ministre a rejeté cette idée, déclarant que François Hollande s'imposait d'après lui comme le candidat naturel du scrutin de 2017. Politique toujours, Valérie Pécresse se lance dans la chasse au gaspillage. Elle s'en explique dans le journal du dimanche. Ainsi, la nouvelle présidente de l'Île-de-France estime qu'il faut d'abord s'attaquer au train de vie de la région. Déménager le siège en banlieue parisienne, diviser par trois le nombre de voitures de fonction, diminuer les frais de représentation, supprimer les séances de nuit afin de ne pas avoir à payer les agents en heures supplémentaires, sans oublier le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Sauf dans les lycées, dont elle entend, je cite, « sanctuariser le personnel ». Le personnel sera heureux de se voir sanctuarisé. D'ailleurs, à propos des lycées, elle n'a pas laissé de côté son projet pourtant controversé, de financer des tests salivaires afin de repérer les fumeurs de haschich. « Je veux des lycées sans drogue », lance Valérie Pécresse en lui souhaite bon courage.
Une question insolite pour finir, Frédéric. Un singe peut-il être considéré comme l'auteur d'une photo ?
Eh bien, aux yeux de la justice américaine, la réponse est non. Et tant pis donc pour le célèbre macaque Naruto qui avait fait le buzz, comme on dit, avec une série de selfies largement diffusées par la presse et sur Internet. C'était en 2011. Et l'histoire tient en quelques mots. Dans un parc en Indonésie, Naruto attrape l'appareil d'un photographe qui était en train d'immortaliser sa bobine, puis, sans le vouloir, le singe va prendre une centaine de clichés, dont d'hilarants autoportraits sur lesquels il sourit à pleines dents à l'objectif, des images qui très vite font donc le tour du monde jusqu'à ce qu'une association de défense des animaux réclame que Naruto touche les droits d'auteur, au motif que c'est lui qui a appuyé sur le déclencheur de l'appareil. Un cas d'école de la propriété intellectuelle, mais après 4 années de bataille juridique, un juge fédéral de San Francisco a tranché, le photographe conserve les droits des clichés. C'est le sujet à la une du Petit Quotidien, le journal des 6-10 ans. Photo pleine page et ce titre, ce singe ne recevra pas d'argent pour ses selfies. Pour info, le macaque n'a fait aucun commentaire à la suite du jugement. Mais bon, sur la photo, il a vraiment l'air d'être très heureux, sachant qu'avec les singes, il paraît qu'on a plein de gènes en commun. Vous avez reconnu Patricia.
C'est vous ça?
C'est Pierre Zay quand vous l'avez chatouillé tout à l'heure.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier. Dans un instant, Christophe André, Alexandre Joly et Mathieu Ricard seront nos invités.